Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh. You did look prepared for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh. Everyone with a role to play to greet the Shabbos Kodesh. A priceless gift, a spiritual lift. Everyone finds a way to assist.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous retrouver pour ce rendez-vous du vendredi avec Avraham Harolvay, le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, pour un rendez-vous du commentaire de la paracha de la semaine qui sera aujourd'hui consacré exclusivement ou presque à la fête de Soukhot. Monsieur le rabbin, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Écoutez, très bien. Je n'ai pas envie de dire soulagé au lendemain de Yom Kippour, mais... Comme je l'écrivais dans un édito, Yom Kippour est à la fois un jour très, très solennel, avec un enjeu particulièrement important, et en même temps c'est un jour de grande simcha, puisque c'est le jour où, si on a fait ce qu'il fallait pendant les Aseret Yemei Teshuva, s'il y a eu cet élan de sincérité, il n'y a aucune raison de croire que nos tefilot n'ont pas été acceptées.
Donc tout va bien.
Donc c'est un jour de réjouissance, et le lendemain de Yom Kippour, qui est d'ailleurs appelé Simchat Kohen, hein, c'est un jour qui symbolise toute la joie aussi des Kohanim, lorsqu'ils avaient effectué notamment le Kohen Gadol, qui avait été le digne représentant du peuple d'Israël, dans le temple, eh bien, le lendemain, on souffle et on a le regard tourné déjà vers Soukhot pour, en quelque sorte, célébrer, fêter ces moments d'Yom Noraïm.
On nous dit qu'à la fin de Kippour, on a déjà monté la Soukha.
Tout à fait, ça permet, ça permet d'enchaîner les mitzvot. Une mitzvah conduit à une autre mitzvah, et le fait de sortir du Yom Kippour avec toutes les bonnes résolutions qu'on a pu prendre et de s'adonner déjà à la mitzvah de la Soukha, c'est quelque chose qui montre justement les dispositions qui sont les nôtres. Donc, même lorsqu'on a déjà construit une partie de sa Soukha, il est bien de rajouter quelque chose le soir de Yom Kippour. C'était le cas, moi j'avais déjà commencé à monter ma soukha, mais je suis descendu hier après avoir mangé pour poursuivre la construction de cette soukha. Et puis ça met dans l'ambiance de la fête. Et puis je vous rappelle aussi qu'on est dans une période tout à fait exceptionnelle, puisque Chachamim nous enseigne que le nouveau décompte des fautes ne commence qu'à partir du premier jour de Soukhot, ce qui veut dire qu'entre Yom Kippour et Soukhot, on est un peu dans un no man's land dans lequel y a plus vraiment de fautes. C'est une période dans laquelle on flotte un petit peu, encore portée par les fêtes de Yom Noraïm. Et donc, il faut absolument en profiter. Puis on a la chance cette année d'avoir un Shabbat. C'est fini. Les Yom Noraïm sont terminés. On a la chance cette année d'avoir un Shabbat au milieu, ce qui est, comme vous le savez, pas toujours le cas. C'est pas très pratique pour construire la soukha et pour faire les courses, mais on va nous se concentrer sur la chance justement d'avoir encore un Shabbat supplémentaire et un moyen d'optimiser ces jours qui nous séparent de la fête de Soukhot.
Alors avant Soukhot, vous l'avez dit, il y a un Shabbat, ce sera demain, on lira le Shabbat à Zinou, très petite paracha, l'allumage des bougies entre 17h52 et 18h50 et la fin du Shabbat à 19h46, ces horaires sont uniquement valables pour sa région et Strasbourg. Comme chaque semaine, on souhaite une renfoie chez les mains à tous nos malades, un Shabbat Shalom particulier à nos aînés et aux personnes isolées, une pensée particulière pour nos frères israéliens, et on espère cette fois la libération des otages un peu plus rapidement que ce qu'on pensait, on l'espère en tout cas. Cette semaine, monsieur le grand rabbin, vous l'avez dit, nous avons un invité cette semaine.
Un invité de marque.
Oui, alors, il porte le même nom que vous. Il n'est pas de votre famille, si ?
Non, je n'ai pas de famille Veil à Strasbourg. On est plusieurs dizaines de familles. C'est un nom assez répandu en Alsace. Alors, si on remonte plusieurs générations, on trouvera sans doute des ancêtres en commun. Mais, à ma connaissance, nous ne sommes pas en famille.
Donc, avec nous, c'est Yosef Veil. Bonjour.
Bonjour.
Ils sont de Bischwiller. Moi, je suis de Mackenheim, donc c'est pas du tout le même coin.
Ah bon ?
Oui. Si vous connaissez votre géographie barinoise, Jean, vous devez savoir que Bischwiller ne se trouve pas du tout à côté de Mackenheim.
Et toi, de Bischheim ?
Non, j'ai effectivement fréquenté la choule de Bischheim parce que mon propre. Mais je suis pas là pour raconter ma vie, hein, mais. Parce que mon propre papa fréquentait la choule de Bischheim et que mes grands-parents s'étaient installés à Bischheim, mais d'origine, les Weil, nous sommes de Mackenheim.
D'accord. Alors, bonjour Youssef.
Bonjour Jean, bonjour à monsieur le grand rabbin, bonjour Thomas et bonjour à tous les auditeurs de Radio Judaïka.
Je crois que Youssef, tu voulais, avant de commencer l'émission, saluer quelques personnes.
Effectivement, Jean. D'abord, mes parents, Odélia et Shlomo. Mes grands-parents, Daniel et Ruth Wertenschlag. Et Michael et Viviane Veil. Sans oublier deux arrière-grand-mères. Et bien sûr, mon grand frère et mes sœurs.
Alors, monsieur le grand rabbin, cette semaine, la paracha est très courte, on l'a dit. On peut essayer. Bon, le résumé, il est un peu compliqué. Mais en un mot, qu'est-ce que. On peut retenir cette paracha.
Alors effectivement, une paracha très courte, hein, 52 psukim. Alors peut-être que ça a été bien vu, hein, cette volonté de terminer la Torah en un an et de faire que, du coup, on a à la fin de l'année des parachutes qui sont plus courtes. On est déjà très fatigué par les fêtes et on nous a, on va dire, imposé une Kriyat HaTorah qui est un peu moins longue, mais qui dit moins long ne veut pas forcément dire plus simple. Hazinu est sans doute la paracha la plus complexe de toute la Torah, puisqu'on va nous proposer une névoie, une prophétie de Moshe Rabbeinu sous la forme d'un chant, d'un cantique, et dans laquelle se cache beaucoup de choses, non seulement des choses qui relatent un petit peu les temps passés, le présent, mais également les temps futurs. Donc il y a beaucoup de choses qui se cachent dans cette paracha, sans doute des choses que nous sommes à même de comprendre, d'autres que nous ne sommes pas à même de comprendre et qui parfois se révèlent au cours de l'histoire. Et là on se dit, ah bah tiens, il y a une connexion finalement avec cette paracha dans laquelle Moshe va révéler certaines choses. Et c'est donc à cela qu'est consacrée cette paracha à Hazinu. Avant de terminer la lecture de la Torah, Simchat Torah,
on dit Hazinu,
nous lirons Zot HaTorah, Zot HaBeracha, on dit Ha-Azinu, qui veut dire écoutez les Ha-Azin. Je peux vous faire un petit cours de grammaire si vous voulez, mais je ne suis pas sûr que ça passionne les auditeurs. Ha-Azinu.
Youssef.
J'ai une question. Dans le Sefer Torah, la paracha est inscrite sur deux blocs. Pourquoi cette présentation ?
Alors c'est une très bonne question, Youssef. Youssef porte un très bon prénom. Youssef Veil, c'est le nom de mon papa aussi, donc je m'adresse à un deuxième Youssef Veil. Pourquoi deux colonnes ? Tout simplement parce que, je viens de le dire, il s'agit d'une shira, il s'agit d'un cantique, et nous avons une tradition qui nous invite à écrire dans la Torah les cantiques de manière différente. Youssef, tu as sans doute en tête un autre cantique très célèbre dans la Torah, c'est celui de la fameuse shira, celle qui a été entonnée par les Bnei Israël au moment de la sortie d'Égypte, qui se trouve dans la paracha de Béchalach, dans le livre de Shemot, et qui est écrite exactement de la même manière. Pourquoi ? Alors, on peut proposer plusieurs explications. L'une d'entre elles est la volonté de la part de la Torah de mettre en exergue et en relief un petit peu ces passages-là, qui sont des passages particuliers, qui ont sans doute beaucoup à nous apprendre. Et forcément, lorsqu'on voit ce passage écrit un petit peu différemment, avec ces versets qui sont placés en symétrie, eh bien, on est tout de suite attiré par ces versets. Et nous savons très bien que la Torah, elle ne se lit pas comme un roman ou comme un conte. La Torah, elle s'étudie, et la manière dont les versets sont agencés, nous le savons même pour ce que l'on appelle les parachiotes, c'est-à-dire les moments où la Torah va faire une pause, elle va laisser un espace entre la fin d'un passage et un autre passage. Parfois, on recommence un peu plus loin sur la même ligne, parfois on recommence à une nouvelle ligne, et bien tout ça a une incidence sur le message que la Torah cherche à faire passer. Ici, on est dans quelque chose de très 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 profond. Il ne faut pas imaginer que Hazinu est une paracha simplement anodine, qu'on veut terminer la Torah de manière poétique. D'après beaucoup de commentateurs, lorsqu'on a vu dans la paracha de la semaine dernière, Ve'ata kitvu lachem et hashira hazot, cet ordre qui est donné d'écrire et hashira hazot, ce cantique, ça ne fait pas référence à toute la Torah, mais ça fait référence précisément au chant de Hazinu, qui du coup, bien d'une certaine manière, pourrait représenter à lui tout seul, ce chant de Hazinu, l'ensemble de la Torah. C'est comme si toute la Torah était en quelque sorte concentrée à l'intérieur, ou résumé à l'intérieur de ce cantique de Hazinu, qui, je le dis, est à la fois très poétique, très beau, mais aussi très très mystérieux, puisque les versets sont très souvent énigmatiques.
Je vais essayer de poser la question. Pourquoi deux blocs ? Pourquoi pas trois ? Pourquoi pas quatre ?
Alors ça, c'est la massorette. Là, vous posez des questions, Jean, sur la massorette. Mais je pense qu'on peut voir dans ces deux blocs, comme j'ai dit, je parlais de symétrie tout à l'heure, c'est un petit peu une réponse. On est un peu dans un dialogue ici. Moshe Rabbeinu a cette vision prophétique. On peut soit voir ce bloc-là comme un dialogue entre Moshe Rabbeinu et le clan Israël, ou un dialogue tout simplement entre le clan Israël et Akadosh Baruch Hu. Et donc, il y a quelque chose dans ces deux blocs qui se font face qui fait clairement référence à cet échange.
On passe à la fête de Sukkot, la fête des cabanes. Une bonne tradition, quand je dis la fête des cabanes.
Sukkot, oui, tout à fait.
Ouais. Ça, ok. D'accord.
Je rappelle quand même qu'il y a une discussion dans la Gemara, genre, dans le Talmud, pour savoir est-ce que les soukottes que nous célébrons à Soukot sont de véritables soukottes, de véritables cabanes physiques dans lesquelles les Bnei Israël se sont installés dans le désert, ou est-ce qu'il s'agit des fameuses nuées de gloire qui entouraient les Bnei Israël et qui, d'une certaine manière, pouvaient aussi prendre l'apparence de cabanes, mais on serait dans quelque chose plutôt d'ordre spirituel que d'ordre physique.
Alors, la fête commence donc lundi soir entre 17h47 et 18h44, et Chol HaMoed débutera mercredi soir le 8 à 19h38. Deux informations. Les heures que j'ai données sont celles du consistoire, mais je vais rappeler ce que vous dites souvent. Le début des horaires, c'est par rapport aux synagogues, donc il faut se renseigner par rapport au lieu où vous priez. Pour le début de la fête.
Alors là, on n'a plus ce problème-là. On avait ce problème-là, Jean, en été. Maintenant, vous l'avez dit vous-même. Vous avez donné un horaire de 18h44, je crois, pour l'heure maximale donc d'allumage des bougies. Ouais. Et c'est l'heure à laquelle on va débuter l'office, d'accord, souvent l'office de Mincha. Donc on n'a plus ce problème-là. On a ce problème-là en été, donc, où là, on commence les offices beaucoup plus tôt par rapport à l'heure du coucher du soleil. On commence souvent les offices à 19h quand le coucher du soleil n'est qu'à 21h30 ou 22h. Là, effectivement, il faut se référer à l'heure de la choule. Cette problématique ne se pose plus actuellement où, désolé de vous casser un peu le moral, mais on est en train de rentrer dans l'hiver tout doucement et donc les journées sont de plus en plus courtes.
Il n'y a aucun problème.
D'ailleurs, on prie, je fais des tefillotes à ce micro, vraiment que la météo puisse changer et donc on va être particulièrement intense dans nos prières ce Shabbat pour que Kadosh Baruch Hu nous donne une belle météo pour ce Soukhot et qu'on puisse manger tous les repas dans la Soukha.
En premier lieu, pour les mitzvahs de Soukhot, si on dit les mitzvot de Soukhot, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qui est important ?
Vous venez de le dire vous-même, hein, la fête s'appelle Chag HaSoukhot. Donc Chag HaSoukhot, ça fait référence directement à la mitzvah de la Soukha, mais qui n'est pas la seule, vous avez raison.
Ça veut dire quoi ? On doit manger, on doit boire, on doit passer du temps dans la Soukha.
Alors on va expliquer en quoi consiste la mitzvah de la Soukha, qui est... venez, commençons avant même de parler des quatre espèces d'arba minim, parlons effectivement de la mitzvah de la Soukha, puisque c'est elle qui a donné son nom à la fête, et sans doute a-t-elle donné son nom à la fête parce que au niveau de sa symbolique, elle est tout à fait exceptionnelle. C'est la seule mitzvah dans laquelle nous sommes entièrement entourés de la mitzvah. Je m'explique, lorsque vous rentrez dans la Soukha, c'est tout votre corps, c'est tout votre être qui est entouré par la mitzvah, ce qui n'existe dans aucune autre mitzvah. Que vous mettiez les téfilines, que vous portiez les tzitzit, que vous accomplissiez une mitzvah grâce à votre nez, grâce à votre bouche, en consommant un aliment comme le fait de manger de la matzah par exemple le soir du seder, etc. Vous allez mettre en alerte l'une des parties de votre corps. Lorsque vous accomplissez la mitzvah de la soukha, c'est tout votre corps qui est plongé à l'intérieur de cette soukha, et donc il y a quelque chose d'extraordinaire, et ce n'est pas un hasard si cette mitzvah de soukha intervient juste après les Yamim Noraim, parce que c'est ce à quoi l'homme aspire. Lorsqu'il vient de sortir de la fête de Yom Kippour et qu'il vient d'exprimer à Dieu le fait qu'il cherche absolument à renouer avec lui, à recréer cette intimité, eh bien le fait d'avoir une mitzvah dans laquelle c'est tout notre être qui va être engagé dans la mitzvah, quelque chose qui répond parfaitement à l'appel de Yom Kippour. C'est d'autant plus une mitzvah qui, comme vous l'avez dit, Jean, s'accomplit durant les 7 jours. Donc si on pousse la mitzvah à l'extrême, même si on est parfois obligé de sortir de la soukha pour faire tout un tas de choses, mais il y a une mitzvah de rester un maximum de temps dans la soukha. On habite dans la soukha et on réalise exactement les mêmes choses dans la soukha que celles qu'on a l'habitude de faire chez nous durant le reste de l'année. Donc on y mange, on y dort, on y étudie et il y a bien sûr une mitzvah d'y passer un maximum de temps. C'est pas toujours facile, certaines personnes n'ont pas de soukha, elles vont devoir utiliser une soukha communautaire ou se faire inviter, mais pour ceux en tout cas qui ont la chance d'avoir une soukha, bien évidemment il ne faut pas lésiner sur l'importance de profiter de chaque seconde et de passer un maximum de temps durant ces 7 jours de soukhot à l'intérieur de la soukha, et ça aussi c'est exceptionnel parce que souvent les autres mitzvot ne s'accomplissent que dans un laps de temps qui est extrêmement court.
Vous disiez la dernière que le plus important c'était le premier soir et le premier midi.
Alors, premier soir, pas premier midi, premier soir, c'est la fameuse Xéra du toutou, qui n'a rien à voir avec un chien, hein, c'est... Là aussi, je ne veux pas rentrer dans les choses très techniques. Vous savez que parfois, la Torah va s'inspirer d'un passage pour apprendre des règles qui concernent un autre passage, un autre endroit, avec des mots qui sont similaires, qui sont utilisés dans la Torah, et c'est exactement ce qui se passe pour la mitzvah de Soukhot. Et... avec des similitudes avec le langage qui est employé à propos de Pessah et de l'obligation de manger de la matzah le soir de Pessah. Et donc, la véritable mitzvah, en tout cas la mitzvah de la Torah, de manger à l'intérieur de la soukha, ne s'accomplit que le premier soir. Voilà, certains pensent que ça s'accomplit aussi le reste de la fête, mais en tout cas, d'après tous les avis, la mitzvah consistant à manger dans la soukha, d'un point de vue de la Torah, c'est consommer 30 grammes de pain le premier soir de Soukhot. C'est pour ça qu'on prie vraiment pour qu'on ait une bonne météo, surtout lundi soir, qui a l'air d'être le moment le plus critique. Mais Bezrat Hashem, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, parce qu'on a toujours réussi à manger dans la soukha.
On va parler des Abamnim dans un instant. Yosef.
Je vais avoir 13 ans. Comment expliquez-vous l'importance de la fête à des jeunes de mon âge ?
Alors ça aussi, c'est une bonne question. Déjà, ce que je trouve extraordinaire, c'est que tu deviens bar mitzvah, je pense, au plus beau moment de l'année. C'est, voilà, tu as un premier Kippour, tu auras presque un deuxième Kippour. Et Yosef, tu le sais ou tu le sais peut-être pas, parce que quand on te voit comme ça, aussi sage, aussi studieux, on a du mal à imaginer que comme tous les garçons de ton âge qui n'ont pas encore 13 ans, d'un point de vue, qui n'ont pas atteint la majorité religieuse, ne puissent être animés que d'un Yetzer Hara, que d'un mauvais penchant, sans que le Yetzer Hatov ne soit présent, parce que je sais, connaissant tes parents et tes grands-parents, tu vois, là je connais tout le monde des deux côtés, je les salue aussi, je leur souhaite un grand Mazel Tov, tes grands-parents de Metz, tes grands-parents de Strasbourg.
Merci.
Je sais que, et en plus, donc tu as la chance d'être à la fois Lorrain et à la fois Alsacien, donc tu es complet là dans ta construction. Et donc on a du mal à se dire effectivement qu'il n'y a qu'un Yetzer Hara, il n'y a pas de Yetzer Hatov. Surtout que j'ai dit, connaissant tes parents, je sais que tu as été éduqué déjà à pratiquer les mitzvot depuis ton plus jeune âge. Et donc tu dois te dire, mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Ça veut dire quoi? Moi, bien sûr, j'ai un Yetzer Hatov, j'aime faire les mitzvot. Voilà, sauf que nous, on considère que le Yetzer Hatov n'intervient qu'au moment de la bar mitzvah. Et donc ton Yetzer Hatov, ce bon penchant qui va rééquilibrer un petit peu les débats, et c'est normal qu'il n'intervienne que maintenant, parce que jusqu'à présent, jusqu'à tes 13 ans, Yosef, tu n'étais pas obligé d'accomplir les mitzvot. Voilà, tes parents t'ont éduqué à accomplir les mitzvot pour que tu sois prêt au moment de ta bar mitzvah. En réalité, ils t'ont conditionné d'une certaine manière à pouvoir accomplir les mitzvot de la meilleure des manières possibles. Mais jusqu'à ta bar mitzvah, tu n'as pas d'obligation, d'un point de vue de la Torah, d'accomplir les mitzvot. Donc pas vraiment besoin de Yetzer Hatov pour rétablir un petit peu cet équilibre. Mais maintenant que tu as une obligation d'accomplir les mitzvot, alors on est obligé de rééquilibrer tout cela. Sinon, tu partirais déjà avec un handicap. C'est pas possible. On peut pas te laisser te confronter au monde des mitzvot uniquement avec le Yetzer Hara. Donc tu arrives au meilleur moment. Tu arrives au moment de la fête de Sukkot, qui est la fête de la Simcha, qui est la fête de la joie. Et je crois que c'est ça ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, Yosef. C'est que le monde des mitzvot, c'est pas un monde de contraintes. Et je sais que tes parents ne t'ont pas donné non plus cette éducation-là. C'est apprendre que le monde des mitzvot, c'est un monde de joie. C'est un monde dans lequel, lorsqu'on fait des mitzvot, et même lorsqu'on a parfois l'impression de se priver, lorsqu'on a parfois l'impression de faire des choses qui sont autorisées pour les autres et qui pour nous ne sont pas autorisées, eh bien, ça a du sens et c'est quelque chose qui nous fait grandir. Et la fête de Sukkot, ça en est vraiment l'expression. C'est un moment exceptionnel. On se retrouve en famille. Il fait pas toujours très chaud dans la soukha, mais il y a une chaleur, il y a quelque chose une chaleur humaine, exactement, une chaleur spirituelle. Il y a des chants, il y a une atmosphère qui est tout à fait extraordinaire. Et ça, je crois que c'est la meilleure des manières de rentrer dans le monde de la bar mitzvah. Parce qu'on rentre dans le monde de la bar mitzvah, on est un adolescent, on a peut-être envie de faire tout un tas de choses, on a le cerveau en ébullition, mais on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on a la chance d'appartenir à ce Ham Israël dans lequel, finalement, il y a des mitzvot absolument merveilleuses et qui ne sont pas contraignantes, au contraire, qui sont source de simcha, source de joie. Donc voilà ce que j'ai envie de dire au bar mitzvah que tu es. C'est accomplis toujours les mitzvot, pas simplement celles de Sukkot, mais toutes celles que tu vas avoir l'occasion d'accomplir à partir de maintenant, à commencer par tes téfilines, fais-le toujours avec cette simcha, avec cette joie, et en te disant, quelle chance j'ai d'appartenir au Ham Israël.
Dans cette fête, il y a deux grands thèmes. La soukha, on l'a dit, les abamnim. D'abord, pour la soukha, il y a des règles précises, c'est-à-dire à quel moment on doit faire une soukha, quelles sont les dimensions, quelles sont les règles.
Alors, la soukha, vous pouvez la faire quand vous voulez. On peut bien sûr rentrer dans quelques règles, on n'a pas le temps d'expliquer toutes les règles, donc n'hésitez pas, et ça je le dis très très sincèrement, posez des questions, appelez vos rabbanim, posez-leur des questions lorsque vous avez un doute sur la cacheroute d'un mur, sur un espace qui n'est un espace qui va être couvert, vous ne savez pas si ça va rendre impropre à l'utilisation la soukha ou pas, n'hésitez pas à poser des questions, parce que souvent on a des fantasmes, on se fait de fausses idées, on est persuadé que la soukha est impropre à cause d'un problème qui n'en est pas un, et à l'inverse, on pense parfois qu'un problème n'est pas un problème alors que il en est un, et qu'on a énormément de solutions pour rendre une soukha cachère, et les rabbanim vous aideront à trouver des solutions pour que votre soukha soit cachère. Donc ça, je ferme la parenthèse, mais je voulais le dire, n'hésitez pas, c'est important de dire aux gens, les gens sont de plus en plus enclins et ont de plus en plus de plaisir à construire la soukha, on le voit, hein, chaque année on a de nouvelles familles, même des gens pas forcément très pratiquants qui prennent un plaisir à construire la soukha, et on ne peut que s'en réjouir. Alors ça serait dommage de faire une soukha qui ne soit pas conforme, donc n'hésitez pas à poser des questions. Les principes de base sont assez clairs, la halakha nous dit qu'une soukha c'est 3 murs, c'est-à-dire au moins 2 grands murs plus un macheo plus encore un petit mur, un troisième petit mur. Nous, on a l'habitude d'essayer de faire 4 murs pour avoir une soukha qui soit, on va dire, encore plus belle, mais une soukha est cachère avec 3 murs, donc ça c'est déjà un grand rideau. Je vous aime bien, maintenant, s'il y a 3 murs, c'est une soukha qui est ouverte. D'un point de vue de la halakha, ça s'appelle une soukha, Jean.
Les gens qui ont des vérandas et qui peuvent enlever le haut.
Oui, alors tout ça, ça peut marcher. Il faut, là encore une fois, bien regarder qu'on n'ait pas une partie du toit qui soit trop importante, trop large, existant déjà, et qui puisse rendre impropre à son utilisation la soukha. Je ne peux pas rentrer maintenant dans tous les détails de ce qu'on appelle Dofen Akuma, etc., mais poser des questions. Moi, je vais simplement édicter quelques règles très très simples. C'est vous dire donc que 3 murs suffisent, que les murs, vous pouvez les faire dans n'importe quel matériau. Il n'y a pas d'alakha concernant les matériaux que vous allez utiliser pour faire des murs. Il y a quand même une chose à respecter, c'est que ces murs doivent tenir devant un vent de force normale. Donc si vous faites vos murs avec quelque chose qui n'est pas suffisamment solide, ou avec un drap, par exemple, qui ne serait pas fixé, qui bougerait, votre soukha ne serait pas kshéra. Donc là aussi, il faut faire très très attention. On a des soukhas tentes, je ne veux pas effrayer, j'en utilise une moi-même, les soukhotes donc en tube avec les tentures autour. Il est bien d'utiliser ce qu'on appelle un système de lavoud, c'est-à-dire de faire en sorte que sur 1 mètre, à partir du sol, eh bien, on puisse avoir entouré cette soukha avec des cordes qui permettent, d'un point de vue halakhique, d'avoir vraiment, d'après tous les avis, ce qu'on appelle un véritable mur. Et ceux qui ne le font pas, vraiment pensez à bien tendre, en tout cas, vos tentures, parce que c'est important pour la cache-roue de la soukha. On voit des fois les gens qui ne font pas attention à ça, et dès qu'il y a un tout petit peu de vent, on voit les tentures se balader à droite, à gauche. Ça, c'est un problème. Et puis, bien sûr, ce qui est important dans une soukha, c'est le toit. Alors, le toit, on le met en dernier, hein. On construit d'abord les murs, on ne peut pas d'abord mettre le toit et après mettre les murs, alors que et donc faire les murs dans un second temps. Donc ça, vous me parliez d'ordre tout à l'heure, pour construire la soukha, l'ordre c'est d'abord construire les murs et mettre le toit en dernier. Et par contre, le toit, lui, comme vous le savez, Jean, oui, il répond à des critères halakhiques bien précis, hein, il faut que ce soit un matériau naturel, hein, il faut qu'il soit détaché de sa source. Donc quand vous prenez des branchages, vous ne pouvez pas utiliser les branches de votre arbre qui sont encore reliées pour recouvrir votre soukha, ils doivent être recouverts de soufre, et ils ne doivent pas être susceptibles de recueillir l'impureté. Donc voilà les 3 règles, parce qu'on peut avoir des matériaux qui sont naturel, du bois, des feuillages, etc., mais qui, de par leur transformation, auraient déjà le statut d'un objet et seraient en mesure de recueillir l'impureté. Donc c'est la 3e règle qui est importante et qu'on doit absolument respecter lorsqu'on va mettre son toit, son scar. Le plus simple aujourd'hui, quand on a la possibilité, c'est d'acheter du scar avec un hercher, une cache-route, où on s'est déjà assuré que toutes ces règles sont respectées. Si ce n'est pas le cas, ou si vous n'en avez pas la possibilité, pensez toujours à poser des questions. Il faut savoir que dans les scars qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage, il peut y avoir parfois des problèmes. On a des solutions aussi pour remédier à ces problèmes, mais c'est bien d'en parler avec des autorités rabbiniques compétentes qui vous guideront et qui vous indiqueront la manière de faire pour remplir tous les critères halakhiques.
La raison de cette fête, c'est juste pour se souvenir ?
Alors effectivement, tu poses une bonne question, Yosef. On nous dit pas toujours quelle est la raison pour laquelle on accomplit les mitzvot. Certaines mitzvot sont des mitzvot qu'on appelle des chukim, ce sont des lois irrationnelles. En ce qui concerne la mitzvah de la soukha, on nous en donne la raison. Et le pasouk, le verset dans la Torah, va clairement exprimer dans la parashat Emor la raison pour laquelle nous construisons des soukottes et nous devons résider dans des soukottes. Et effectivement, le pasouk nous dit les manyedou dorotechem ki basoukot au shavtiet béné Israël, afin que vos générations sachent que moi-même j'ai installé les béné Israël dans des soukottes. Donc effectivement, il y a quelque chose qui est intrinsèquement lié à la notion de souvenir, et d'ailleurs qui nous, du coup, nous indique que lorsqu'on accomplit la mitzvah de soukha, il faut bien penser à ça. Il faut penser absolument à, aux soukottes qui ont été construites lorsque nous étions dans le désert. Alors encore une fois, comme j'ai dit, discussion pour savoir est-ce que c'était de vraies cabanes ou est-ce qu'on fait référence ici aux nuées de gloire qui entouraient et protégeaient les Bnei Israël. On peut penser aux deux pour s'acquitter correctement de la mitzvah, mais effectivement il y a quelque chose qui est ici très très lié au souvenir, même si du coup tu as remarqué Yosef, qu'on ne célèbre pas Soukhot au moment où on aurait dû le célébrer, puisque si Soukhot est une fête qui rappelle quelque chose qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte, bah, on aurait dû célébrer Soukhot beaucoup plus tôt dans l'année, juste après Pessah, entre Pessah et Shavuot. Or, on célèbre Soukhot après Rosh Hashanah et Kippour, un moment qui est complètement détaché d'un point de vue historique de la sortie d'Égypte, qui a eu lieu en Nissan. Là, on est très loin du mois de Nissan déjà. Et ça, eh bien, le Tour l'explique. Il nous dit tout simplement que si nous avions célébré...
Un commentateur.
Tout à fait. Et qui nous dit donc, qui a compilé les quatre grands volumes de Halakha, sur lequel d'ailleurs s'est appuyé en grande partie le Shulchan Aruch, le Bet Yosef, lorsqu'il a rédigé son propre ouvrage d'Halakha. Et donc le Tour, Rabbi Yechiel Ben Asher, le Tour qui est le fils du Rosh, grand Rishon, grand commentateur de la Gemara, nous dit que si on avait célébré Soukhot au printemps ou au début de l'été, eh bien on n'aurait pas véritablement senti qu'on célèbre cette fête pour accomplir la mitzvah, puisque c'est une période où naturellement les gens ont tendance à quitter leur maison pour s'installer à l'extérieur dans des cabanes, profiter du bon temps. Là on voit que la météo est souvent capricieuse, et donc le fait de sortir pour accomplir la mitzvah de Soukhot montre que nous sommes véritablement dans l'accomplissement et uniquement dans l'accomplissement de la mitzvah, et sans aucune recherche d'un autre plaisir ou de quelque chose qui serait complètement éloigné de la mitzvah en question.
Un mot sur la deuxième partie de cette fête, on va y aller plus rapidement, sur les quatre espèces avec le tronc, c'est très, là aussi très régulier.
Tout à fait. La deuxième mitzvah, vous avez raison, Jean, de le souligner, la deuxième mitzvah de la Torah, et qui est propre à la fête de Soukhot. Je rappelle qu'il y a des mitzvot qui sont communes à toutes les fêtes, mais celle qui est propre à la fête de Soukhot, c'est effectivement celle qu'on appelle la mitzvah des Arba Minim, des quatre espèces, donc dans laquelle il y a le Etrog. D'ailleurs, c'est intéressant que le Etrog est a priori l'espèce la plus noble, parce que comme vous le savez, Jean nous dit que ces quatre espèces ont des qualités. Le Etrog a les deux qualités, à la fois un bon goût et une bonne odeur. Le Loulav a un bon goût mais pas de bonne odeur. Les Hadassim, les Myrtes ont une bonne odeur mais n'ont pas de goût, ne sont pas comestibles. Et les Haravot, les branches de saule, elles n'ont ni goût ni odeur. Et donc a priori, le Etrog, par définition, d'ailleurs on le tient à part, donc on voit bien qu'il a un statut tout à fait particulier. Le Etrog est l'espèce la plus noble. Et pourtant, souvent, quand on parle par abus de langage des Arba Minim, on a l'habitude de dire le Loulav. Donc c'est marrant qu'on n'ait pas choisi le mot le Etrog. On aurait dû dire le Etrog, puisque c'est un peu le modèle, le Etrog. C'est ce vers quoi chacun cherche à tendre. Alors, d'un autre côté, la première espèce, celle qui est la plus visible, c'est le loulav, parce que le loulav est grand et que le loulav est élancé et qu'il a tendance à se voir de loin, même s'il n'a pas une couleur aussi vive que le Etrog. Il y a beaucoup à dire là-dessus. L'explication, bien sûr, classique que l'on donne à propos des Arba Minim, vous le savez, c'est que ces quatre éléments représentent chacun un type de juifs. Il y a celui qui a à la fois la connaissance de la Torah et à la fois la pratique des mitzvot, celui qui n'a qu'une de ces deux qualités, c'est-à-dire ou bien la pratique des mitzvot ou bien la connaissance de la Torah, mais sans que l'autre qualité ne soit présente. Et vous avez ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre. Et pourtant, il y a cette notion de hardout, cette notion d'unité qui naît directement, là encore une fois, ce n'est pas un hasard si ça arrive après Yom Kippour, parce qu'à Yom Kippour, nous avons compris qu'au fond, eh bien, ce qui nous permet de nous en sortir, ce qui nous permet d'obtenir obtenir le pardon, même si c'est un jour où c'est Itsumo Sheliom, où c'est vraiment l'essence même du jour de Yom Kippour qui provoque le pardon, eh bien, ça se fait surtout grâce à cette unité, grâce au fait qu'on soit un peuple uni, que les lacunes des uns puissent être comblées par la force des autres. Et donc, c'est ce qu'on montre au travers des Arba Minim, lorsqu'on les prend ensemble, lorsqu'on les réunit ensemble dans la main. Nous sommes un peuple, et un peuple uni, quelles que soient nos qualités et nos défauts.
Alors, il y a quelque chose qui est tout à fait surprenant, c'est la procession devant, derrière, en haut, en bas, avec des Arba Minim. Je veux dire, si on écoute le son et on ne sait pas ce que c'est, on dit c'est une secte.
Tout à fait.
Alors, c'est quoi l'explication ?
Ouais, les gens nous regardent déjà bizarrement lorsqu'on se balade de la maison jusqu'à la chaule avec nos Arba Minim, en se demandant ce qu'on se trimballe. Mais alors, s'ils nous voyaient en train de l'agiter dans tous les sens, je pense qu'effectivement, un certain nombre d'entre nous finiraient à Brumath.
Mais c'est un peu symbolique quand même. C'est très symbolique en fait. Il y a
tout à fait.
De symbole.
Alors, le fait d'agiter le loulav dans tous les sens, l'Arba Minim, c'est montrer la présence d'Akadosh Baruch Hu dans notre existence, dans quatre points cardinaux, également en haut, en bas, on veut montrer cette. Et donc là aussi, on est encore une fois dans quelque chose qui est un prolongement de la fête de Yom Kippour, avec ce lien renoué avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu redevient omniprésent dans notre vie, même lorsqu'Akadosh Baruch Hu avait eu tendance, malheureusement, par nos écarts, à disparaître un petit peu de nos vies et de notre existence. Et bien Akadosh Baruch Hu revient au centre de notre existence.
Je comprends pas. On vient de terminer de Kippour. On a fait Rosh Hashanah. On a annoncé clairement que Dieu était avec nous. On doit encore à Sukkot refaire la même.
Oui, parce que là, on était jusqu'à présent. On était un petit peu la boule au ventre, j'en voyais. On est dans une période, les Yaim Noraim, qui est une période où on est plus dans la crainte, on est dans la ira. Là, Yom Kippour est passé. Baruch Hashem, nous avons été pardonnés de tous nos fautes. On écrit une nouvelle histoire, la page est vierge, et nous avons envie de renouer ce contact, mais d'une manière différente. Plus dans la crainte, plus dans la peur, plus dans une certaine forme de retenue, mais au contraire, dans quelque chose qui exprime la joie, qui exprime la proximité. Et c'est par ces deux mitzvot, de la Souka et d'Arba Minim, que cela s'exprime le mieux.
Yosef.
Alors, ça ressemble un peu à un Pessah avec les quatre enfants et les quatre coupes. La fête qui dure une semaine. Il y a une relation entre ces deux fêtes ?
Alors, il y a nécessairement une relation entre les trois fêtes de pèlerinage que sont Pessah, Shavuot et Sukkot. Il y a plusieurs éléments dans ta question, Yosef. Il y a à la fois le chiffre 4 qui revient, effectivement. Ce chiffre 4 est omniprésent durant la fête de Pessah. Il y a les quatre enfants, il y a les quatre coupes, il y a les quatre questions du Manishtana, il y a les quatre mitzvot du Seder. Il y a énormément de 4 lors de la soirée du Seder. Et ce chiffre 4 qui revient avec cette mitzvah donc du Lulav, effectivement, il y a un lien au niveau du chiffre 4. Le chiffre 4, encore une fois, c'est les 4 points cardinaux, donc ça fait référence à l'omniprésence, on va dire, d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu dans ce monde. Mais il y a également un lien qui est lié tout simplement au fait que lorsque nous parlons de fêtes de pèlerinage, lorsque nous parlons de régalim, des chaloches régalim, eh bien, il s'agit d'un triptyque. Il y a une évolution entre la fête de Pessah et la fête de Sukkot. Alors, sachant que la fête de Pessah est la première, puisque d'un point de vue de la Torah, le premier mois n'est pas le mois de Tishri, mais le mois de Nissan, et que la fête de Sukkot est la dernière de ces fêtes de pèlerinage, et que celle qui est au milieu, c'est la fête de Shavuot. Donc Pessah, c'est le début. Sukkot, c'est l'aboutissement. Et donc forcément, il y a un lien. C'est la boucle qui se referme avec la fête de Sukkot. Pessah, c'est le printemps. C'est le début de la récolte. C'est le moment où on sème, c'est le moment où certaines premières récoltes commencent déjà à voir le jour, mais donc on est au début de notre histoire finalement. Et Sukkot, c'est le moment où on engrange, donc c'est le moment où on récupère cette récolte, c'est le moment où on espère avoir fait le travail, c'est le moment où il y a une certaine maturité en nous, et donc c'est aussi ce que viennent exprimer finalement ces Arba Minim, et peut-être que des quatre questions viennent s'exprimer quatre réponses au travers de ces Arba Minim. Peut-être aussi qu'on a, Colère, tu parlais des quatre enfants, et là, on peut s'amuser aussi à faire un rapprochement entre les quatre enfants. Alors, faisons-le, entre les quatre enfants et les quatre espèces. Alors, je m'amuse quand même à ce petit jeu. Jean, vous pouvez jouer, Jean. Vous avez le droit de jouer aussi, Jean. On est tous des grands enfants.
Allez-y.
Alors, Yosef, à ton avis, je fais ce petit jeu avec toi. Le Etrog, ça serait lequel des quatre enfants?
Je sais pas trop.
Alors moi, je propose de dire que le Etrog, ça serait le Chacham, exactement. Parce que le Etrog, il a a priori toutes les qualités, il a la connaissance de la Torah, et il a à la fois aussi les Midot, donc ça serait le Chacham. Le Racha, ça serait quelle espèce?
Le loulav.
Alors le rachat, c'est celui qui a la connaissance de la Torah, mais il n'a pas les mitzvot. C'est ça ce qu'on peut dire à peu près, a priori, c'est ce qu'on pourrait dire du chacham. Je dirais que le tam, même si c'est pas forcément scientifique ce que je suis en train de dire, le tam, bon, il a une certaine candeur, donc on peut dire que le tam, d'ailleurs je pourrais le prouver aussi, que le tam, lui, a la pratique des mitzvot, mais il n'a pas forcément les connaissances, on le voit par rapport à sa question. Et puis effectivement, le chenoy et l'échol, pour être une sorte de harava, soit lié à un manque de maturité, parce que c'est encore un tout jeune enfant qui ne peut pas encore la connaissance ni les pratiques, en tout cas pas de pratique autonome, ou bien parce qu'il s'agit d'un adulte qui est déjà tellement éloigné, malheureusement, de toute forme de rapport à la Torah et au judaïsme, qu'il n'a ni la connaissance ni la pratique des mitzvot. Donc tu vois qu'il y a aussi un lien très très fort entre ces quatre espèces et ces quatre enfants.
À partir de mercredi, c'est quoi le mois?
À partir de mercredi.
Jeudi, mercredi soir.
Oui.
Ok. C'est quoi comment ça marche? Chol Hamoed, Moed, Chol.
Alors, comme vous l'avez dit, dans le mot Chol Hamoed, il y a à la fois le mot Chol et à la fois le mot Moed. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on se souhaite un bon Chol Hamoed, on dit Gut Moed chez nous. Certains vont dire Moadim, les Simcha. Et le mot Chol est complètement absent des vœux qu'on se souhaite à ce moment-là. Chol Hamoed, s'il y a le mot Chol, c'est parce qu'on est toujours dans le Moed, mais qu'il n'y a pas de règle de Yom Tov à proprement parler qui s'applique pendant ces jours. Mais nous sommes entièrement encore dans la fête, et ça, les gens ont tendance à l'oublier. Les lois de Chol Hamoed sont des lois très très complexes, donc je vous invite à bien les réviser. Aujourd'hui, on peut réviser ces lois, poser aussi des questions quand vous avez un doute sur ce qui est permis ou ce qui est interdit. Ce qui va être permis, c'est toutes les choses qui s'inscrivent dans le cadre de la fête. On pourra de nouveau aller faire ses courses, on pourra faire que des choses qui sont intrinsèquement liées à la fête, mais les jours de Chol Hamoed ne sont pas des jours de Chol, ce ne sont pas des jours où on va vaquer à ses occupations classiques, même en ce qui concerne l'activité professionnelle. Les choses sont extrêmement régulées et réglées, donc je vous invite vraiment à bien réviser ces jours de Chol Hamoed, et il y a une grande ma'ala, une grande dimension à respecter ces jours de Chol Hamoed, et peut-être que c'est un des points sur lesquels on doit travailler, faire de ces jours de Chol Hamoed des jours qui soient encore plus ancrés dans la fête que ce que nous avons l'habitude de faire.
Monsieur le grand rabbin, bonne fête, hein, Chag Sameach.
Merci beaucoup, Jean.
Bravo à Yosef.
Bravo à Yosef.
Pour la bar mitzvah.
Grand mazal tov, Yosef.
Et merci à mazal tov aux parents, à Shlomo qui est avec nous. Shabbat Shalom et Chag Sameach. Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, you did not prepare for Shabbos Kodesh, joy is in the